Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ils se sont déchirés, il fallait donc s'expliquer. Ils ont fini par accepter. Les socialistes approuvent l'alliance avec les insoumis pour les législatives. Pas d'unanimité, mais une nette majorité hier soir en Conseil national, au prix de quelques passes d'armes, vous l'entendrez. Et maintenant, certains oseront-ils la dissidence? Comment l'union de la gauche rebat-elle les cartes pour le mois de juin? Le service politique d'Inter nous explique. Eux sont bloqués en France depuis le début de la guerre en Ukraine. Des marins russes victimes des sanctions européennes qui frappent leur cargo immobilisé à Boulogne-sur-Mer. Nous avons pu leur parler. Dans ce journal aussi, une spéléologue retrouvée morte dans une grotte iséroise. Les collégiens qu'elle accompagnait sont sortis in extremis. Les pesticides durablement contaminants pour les écosystèmes. Nouvelle étude alarmiste ce matin, on la détaillera. Et d'environnement, il en sera aussi question à 8h20. Jérôme, on va parler de nos ressources en eau.
Ressources qui s'amenuisent. On en parle avec l'hydrologue Emma Aziza, fondatrice de Mayan, un centre de recherche appliqué dédié à l'adaptation climatique. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Vous lui posez vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
C'est fini pour l'OM en Ligue Europa Conférence. Élimination hier soir face à Rotterdam. Et puis le retour du roman photo, mais sans se prendre au sérieux. On le doit à Éric Judor et Fab Caro.
France Inter. Nous avons les uns et les autres décidé de passer par-delà les rancœurs. Nous allons maintenant consacrer, mettre toutes nos forces à une victoire que nous croyons possible.
Olivier Faure soulagé quand à minuit passé, le patron du PS peut annoncer les résultats du Conseil national du parti. 62% de oui à l'alliance avec les insoumis pour les législatives. Alors ce n'est pas l'unanimité, mais c'est tout de même une large majorité, surtout au vu de la fronde des deux derniers jours. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous avez veillé tard pour suivre ces quatre longues heures de discussion. Discussion parfois houleuse.
Absolument, avec des mots et des formules violentes. Cet accord, c'est une forme d'écrasement, de renoncement, lance Hélène Geoffroy. La maire de Vaux-en-Velin dénonce le parachutage annoncé de candidats de la France insoumise dans des lieux jusqu'ici administrés par le PS. Opposé lui aussi à un accord électoral, Patrick Mennucci va plus loin. Vous ne pourrez pas, lance l'ancien député, infléchir la politique de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez entendre le leader Maximo vous donner la ligne et vous n'aurez pas votre mot à dire. En face, les cadres du parti répondent pied à pied. Et le plan B, c'est quoi? C'est d'aller seul aux législatives, interroge Pierre Jouvet, en charge des élections, pendant qu'Olivier Faure évoque un retour aux sources. Mitterrand, dit-il, était lui aussi perçu comme radical. À force de dire que nous sommes un parti de gouvernement, nous oublions nos propres racines. Cet accord, c'est l'occasion de clarifier la place du Parti Socialiste, résume la sénatrice Laurence Rossignol. Nous étions, dit-elle, sortis du champ de la gauche, nous n'étions plus fréquentables parce que nous étions perçus comme ceux qui avaient amené Emmanuel Macron au pouvoir. L'alliance avec la France Insoumise lève la suspicion à notre égard.
Le PS va donc présenter, Antoine, des candidats dans 70 circonscriptions, mais vu les conditions de cet accord, est-ce qu'il faut s'attendre maintenant à des dissidences?
Oui, des socialistes exclus du parti et qui se présentent sous une étiquette indépendante, il y en aura, au moins dans l'Hérault, mais ce sera compliqué pour eux, ne serait-ce qu'en termes financiers, expliquent plusieurs cadres du PS, et s'ils gagnent, ils seront au sein de la gauche marginalisés. Dans la majeure partie des cas, l'accord sera donc probablement respecté, accord salué par les communistes, les Verts et Manuel Bompard, le représentant de la France Insoumise, qui conclut « Nous pouvons maintenant remporter les législatives et changer la vie des gens ».
Merci Antoine Gignot. L'accord va donc pouvoir s'appliquer le mois prochain. Insoumis, socialistes, communistes et écologistes sous la même bannière, avec l'espoir d'engranger bien plus de députés qu'il y a 5 ans. Cela pourrait bien rebattre les cartes, Élodie Forêt. Quel impact maintenant sur les autres forces politiques?
En 2017, seuls 166 candidats de gauche se qualifient au second tour des législatives. En 2022, mécaniquement, ils seront plus nombreux. L'union de la gauche devrait donc impacter les autres formations. En premier lieu, le parti présidentiel qui pourrait connaître davantage de difficultés à s'imposer, notamment dans les métropoles. Mais pour Frédéric Dabi, directeur de l'IFOP, il faut rester prudent.
Ce qui peut être une fragilité pour le parti présidentiel peut être également une force. Si dans beaucoup de circonscriptions, Jean-Luc Mélenchon peut apparaître comme un épouvantail, le vote Macron pourrait être un réceptacle, notamment de la part des électeurs sociaux-démocrates qui ne vont pas accepter cet accord.
Réceptacle des sociaux-démocrates, quid de l'électorat de droite? Pour Mathieu Gallard de l'Ipsos, c'est l'une des inconnues de ce scrutin, l'attitude de ces électeurs face aux candidats LR.
Il y a beaucoup d'élus républicains sortants qui sont appréciés localement et qui peuvent éventuellement, s'ils font une bonne campagne, une campagne active, résister.
Un cadre LR se veut optimiste, l'union de la gauche, ça excite les médias, mais sur le terrain, les gens se demandent qui sont ces types prêts à vendre leur âme. Sérénité affichée aussi au RN. Une gauche unie, ça peut mobiliser nos électeurs, espère un candidat.
De son côté, le parti de la majorité présidentielle, qui a changé de nom hier, Renaissance, remplace La République En Marche. Renaissance, donc, vient de dévoiler une première liste d'investiture pour ces législatives. 187 noms. On y trouve plusieurs membres du gouvernement. Jean-Michel Blanquer se présente dans le Loiret, Elisabeth Borne dans le Calvados, Gérald Darmanin à Tourcoing. Et puis, c'est confirmé pour Manuel Valls, l'ancien Premier ministre de François Hollande, est investi dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger, qui comprend notamment l'Espagne.
Et s'ils sont majoritaires en juin, ces députés Renaissance, donc ces députés devront plancher sur une réforme du compte épargne-temps.
Oui, c'est l'un des chantiers sociaux qu'Emmanuel Macron a promis de mettre en œuvre pour ce deuxième quinquennat.
Le compte épargne-temps, c'est ce qui vous permet d'engranger, comme vous le savez, les jours de congé que vous n'avez pas pris, vos RTT que vous n'avez pas utilisés. On va lancer un grand travail de dialogue social pour le rendre universel.
Voilà, le compte épargne-temps universel, suite et fin de notre série du 8 heures sur les grands chantiers du second quinquennat. De quoi parle-t-on exactement, Maxime Debs?
Comme le dit Emmanuel Macron, le compte épargne-temps est un dispositif qui permet de stocker les jours de congé que vous n'avez pas pu prendre dans l'espoir de pouvoir les poser plus tard, voire dans certains cas, de les faire monétiser. Problème, ce privilège est aujourd'hui réservé aux fonctionnaires et à certains salariés seulement lorsqu'un accord d'entreprise ou de branche le prévoit, et seulement dans ce cas, injustice qu'il faut réparer pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
C'est comme beaucoup de droits qui peuvent exister dans le monde du travail, ils sont des fois trop peu accessibles pour les salariés des petites entreprises, des secteurs les moins favorisés. Donc l'idée là, c'est que ce soit pour tous les salariés.
Tous les salariés qui, dans la réforme voulue par le président, pourraient conserver leurs jours de congé, même en changeant d'employeur. Une idée, une banque des temps, longtemps défendue par la CFDT.
Je crois qu'il y a une aspiration aujourd'hui, on l'a vu avec la crise sanitaire, à articuler différemment le temps personnel et le temps professionnel. On a vu que le chef de l'État avait repris ce vocable de compte épargne temps universel. Maintenant, il faut remplir la coquille.
La CFDT qui voudrait que dès la première embauche, 5 jours de congé soit mis d'entrée à disposition du salarié par l'employeur pour abonder son CET dès le début de sa carrière. Pas simple. Quid également des TPE, les très petites entreprises, où voir un employé poser 2 mois de congé d'un coup pourrait aussi très vite tourner au casse-tête pour le patron. D'où l'importance de négociations avec les partenaires sociaux.
Les explications de Maxime Debs. Ils étaient partis arpenter des grottes à Sassenage, près de Grenoble. Un groupe de collégiens isérois et leurs accompagnateurs surpris hier par la brusque montée des eaux. Les enfants ont pu sortir à temps, mais l'une de leurs guides spéléologues a été retrouvée morte dans la soirée. C'est la deuxième fois en 20 ans qu'un accident se produit dans cette cavité. Le maire de Sassenage, Christian Coignet.
Tout le site est sécurisé, le site de visite en tout cas, il y a près de 15 000 visiteurs par an, autres que les collégiens. On l'a encore un peu plus sécurisé après l'accident de 2002, où on a mis des luminographes qui avertissent la montée des eaux. Mais le Vercors est une vraie éponge et on a du mal en tout cas à maîtriser la montée d'eau qui était rapide, et hier bien plus rapide que d'habitude. Il y a un phénomène de retenue d'eau dans le Vercors, avec des poches d'eau qui se créent, qui se forment, et à un moment, eh bien, avec la conjonction d'une pluie, même d'une pluie faible, on peut avoir une descente d'eau très très rapide et qui crée une montée d'eau dans les cuves et de manière très très rapide, qui normalement, devrait être prévue par ou maîtrisée en tout cas par les professionnels.
Le maire de Sassenage sur France Bleu Isère, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête.
En Ukraine, c'est peut-être la dernière chance d'évacuer les civils encore bloqué dans les entrailles d'Azovstal.
Un nouveau convoi de l'ONU est en route vers l'aciérie de Mariupol, où la situation est confuse ce matin. Les Russes assurent respecter le couvre-feu qu'ils ont eux-mêmes promis. Faux, rétorquent les Ukrainiens. Le week-end dernier, une première opération de ce type a permis déjà de sortir une centaine d'habitants de cet enfer sur Terre. Parmi eux, Anna Zetseva et son bébé de 6 mois. Nous avons pu la joindre à Zaporijjia, où elle a trouvé refuge. Elle raconte.
C'était comme dans un film d'horreur. Je ne dormais pas beaucoup. Dans de telles conditions, tu peux dire adieu au sommeil. Encore plus quand tu es jeune maman. Toutes les activités ordinaires, comme faire à manger, prenaient beaucoup plus de temps. Par exemple, nous devions utiliser des bougies pour faire chauffer l'eau. On ne mangeait que des boîtes de conserve. Nous étions toujours dans le noir, le bébé n'arrivait pas à dormir. La seule poêle dont nous disposions s'est cassée à cause des bombardements. On ne pouvait donc plus manger. C'était très difficile.
Un témoignage recueilli par Denis Katayev et Anaël Larue. Depuis le début de cette guerre, il y a maintenant 2 mois et demi, un cargo russe est bloqué en France dans le port de Boulogne-sur-Mer. Le Baltic Leader, immobilisé le 26 février par la douane française, car il est susceptible d'appartenir à une banque russe visée par des sanctions européennes. Situation totalement bloquée aussi pour les marins de ce bateau, toujours à Boulogne. Sophie Constanzer est allée à leur rencontre pour Inter.
Depuis la plateforme de l'imposant cargo rouge, ce marin russe avoue l'attente, difficile pour lui et les 14 autres membres d'équipage.
Pour l'instant, tout se passe bien, mais que va-t-il se passer demain? On n'en sait rien, personne ne sait. Tout le monde, vous, nous, a envie de savoir. Le plus difficile, c'est l'absence de nouvelles.
Sur ce quai, éloigné de tout, dans une zone sécurisée, l'équipage du Baltic Leader est ravitaillé par 2 agents de Rodoc, un prestataire du port dont Claude Philippe est le responsable.
On leur commande à manger, on leur commande de l'eau fraîche, des cartes de téléphone. Enfin, on est là à leur service, en fait, hein, pour essayer de leur adoucir, on va dire, un petit peu la période compliquée.
Cette immobilisation à quai, elle génère des frais supplémentaires.
Pour l'instant, tout se passe bien. On est payé par l'armateur, ouais. Pour le moment, hein, pourvu que ça dure.
Le cargo long de 127 mètres a dû être déplacé 15 fois déjà pour laisser place à d'autres bateaux de marchandises, car il pose de vrais problèmes pour l'activité, explique le responsable du port de Boulogne-sur-Mer, Alain Caillé.
Quand on déplace le navire, c'est pour le mettre à un autre endroit du quai, donc au final, il prend quand même de la place. On accueille parfois 3 navires de commerce en même temps, et quand c'est le cas et qu'il y a un bateau comme ça présent, on ne peut pas les accueillir en même temps.
Et une demande a été faite pour déplacer le Baltic Leader vers le port de Dunkerque, plus grand.
Reportage Sophie Constanzer dans le Pas-de-Calais. Les assaillants ont choisi le jour anniversaire de la création d'Israël pour passer à l'acte. 3 morts, 4 blessés hier soir dans une nouvelle attaque, cette fois à Elad, dans le centre d'Israël. La 6e attaque visant des Israéliens depuis 1 mois et demi. Une chasse à l'homme est actuellement en cours pour retrouver les suspects, 2 Palestiniens d'une 20aine d'années. Les courbes du Covid repartent franchement à la hausse en Afrique du Sud. Plus 50% de nouveaux cas en 24 heures en raison, selon les scientifiques locaux, de 2 nouveaux sous-variants d'Omicron. Et voici d'autres scientifiques français, ceux-là, qui pendant 2 ans ont passé en revue 4000 études sur les pesticides pour mettre à jour nos connaissances, car le dernier état des lieux remontait à 2005. Et c'est une nouvelle alerte très inquiétante qui en ressort. Les produits phytosanitaires ont un impact majeur et surtout durable sur les écosystèmes, Sandy Dauphin.
Une confirmation, l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins sont contaminés par les pesticides, mais l'image est plus précise qu'il y a quelques années car le réseau de surveillance et les techniques d'analyse se sont améliorées. Des produits utilisés dans les parcelles comme le glyphosate se diffusent jusqu'aux océans, explique Wilfried Sanchez, directeur scientifique adjoint de l'IFREMER.
Concernant le glyphosate qui est un herbicide, il va se diffuser au travers des cours d'eau pour atteindre les zones côtières où on va pouvoir le retrouver dans certaines zones à des concentrations de l'ordre du microgrammes par litre, c'est-à-dire entre 100 et 1000 fois plus concentré que les autres substances. Probablement du fait de son utilisation importante.
Les produits phytosanitaires sont l'une des causes majeures du déclin de certaines espèces d'oiseaux et d'insectes, avec des impacts directs et indirects, explique Sophie Lénard de l'Institut National de Recherche Agronomique. Elle a coordonné l'étude.
C'est ce qui a été mis en évidence sur les néonicotinoïdes, qui sont des insecticides. Les effets se manifestent par des perturbations des facultés d'orientation des oiseaux et des effets indirects puisque ces insecticides ont un effet direct sur les populations d'insectes et un effet indirect sur la ressource alimentaire pour les oiseaux.
Pour éviter la dispersion des pesticides dans les cours d'eau et dans l'air, les chercheurs soulignent l'importance de l'aménagement du paysage, des bandes enherbées le long des champs, des haies et des bosquets.
Il y a donc encore fort à faire. L'Union européenne planche actuellement sur une réduction de moitié de l'usage des pesticides d'ici à 2030.
Le soutien du stade Vélodrome n'a pas suffi aux Marseillais.
L'aventure européenne s'arrête là pour l'OM. Pas de finale de la Ligue Europa Conférence après un nul. 0 partout hier soir contre le Feyenoord Rotterdam. Pas suffisant donc pour pour compenser la défaite du match aller. Les Néerlandais affronteront l'AS Rome en finale le 25 mai. Et pour les supporters marseillais qui voudraient se changer les idées ce matin, cette nouveauté en librairie. Enfin, nouveauté, c'est beaucoup dire, parce que c'est le retour du roman photo, mais en version caustique, humoristique. Éric Judor, le comédien, et Fab Caro, l'auteur de BD, sortent Guacamole Vaudou, l'histoire très loufoque d'un publicitaire complètement paumé. Amélie Perrier a beaucoup aimé.
C'est un joli tour que nous jouent Éric Judor et Fab Caro. Remettre au goût du jour le roman photo, un style tombé en désuétude, et pour cause, nous confirme Éric Judor.
Le roman photo, comme on le connaissait à l'époque, moi ça m'intéressait pas du tout, parce que c'était un peu des histoires d'amour chiantes. Mais ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'en faire une BD, quoi. D'en faire une BD drôle.
Et de nous replonger dans les années 70-80 à grands coups de perruques improbables et de chemises à jabot pour nous raconter l'histoire d'un pauvre employé d'une agence de pub, Stéphane, à la recherche de la win américaine.
Alors, la win américaine, c'est vraiment un truc des années 80, à l'époque où on idolâtrait vraiment, en tout cas moi, ma génération. Les États-Unis, c'était la réussite, quoi. Quand on avait un truc, une bagnole américaine, un jean américain ou un répondeur. Parce que moi, je suis d'époque où les répondeurs, c'était stylé, quoi.
Éric Judor, alias Stéphane, va se voir investi de cette win grâce à un stage vaudou. Et quand on lui demande s'il y croit...
À mort. Moi, je rigole pas avec... Si on me présente un mec et on me dit que c'est un sorcier vaudou, je rigole pas avec lui. Je fais pas de « Ah ouais, bah vas-y, prouve-le ». Non, je dirais pas ça.
C'est drôle, absurde, anachronique, et le casting autour d'Éric Judor vaut le détour. D'Alison Wheeler à Elisabeth Quin, en passant par l'écrivain Hervé Le Tellier et le chanteur Arthur Ashe. Un sortilège vaudou hilarant.
Voilà, Guacamole Vaudou, c'est publié aux éditions du Seuil. Si on m'avait dit que je parlerais de roman photo en 2022, qui sait, peut-être le retour du Club des 5 en 2023.
Club des 5, que vous préférez au Clan des 7, j'ai l'impression. Alexis Morel, on saura tout de vos goûts littéraires. Merci à vous pour ce journal. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo, avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Stéphanie, encore de la pluie en Corse aujourd'hui.
Et oui, la matinée reste effectivement pluvieuse sur l'île de Beauté avec des averses localement soutenues. Un début d'accalmie va se dessiner dans l'après-midi, sauf sur le nord de l'île. Quelques averses se développent aussi au réveil au sud de la Garonne, sur le massif central, les Alpes et l'arrière-pays provençal avec quelques orages sur les Alpes du Sud. Partout ailleurs, le temps sera malheureusement sec, globalement bien ensoleillé après dissipation des grisailles matinales. Le soleil aura parfois du mal à percer près de la Manche avec des nuages bas tenaces et un ciel qui s'ennuie en cours de journée autour de la Méditerranée, en Occitanie ainsi qu'en Bretagne. Des nuages poussés au sud par du Mistral et de la Tramontagne qui soufflent à 70-90 km par heure.
Et la douceur s'installe.
Et la semaine prochaine prendra d'ailleurs des allures estivales. Les températures maximales aujourd'hui flirtent quasiment partout avec la barre des 20 degrés. 21 degrés pour Rouen, Lyon, Dijon, Limoges et Toulouse. 22 à Rennes, Bourges et Strasbourg. 23 pour Paris, Cognac et Bordeaux. Jusqu'à 25 degrés à Marseille et Montpellier. Une petite fraîcheur persiste encore au nord, en bord de Manche et sous les averses corses avec 15-16 degrés, 15 à Cherbourg, 16 à Bastia.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure. 8h17, Géopolitique.